Le podcast À cœur d'elle est l'initiative de la table de concertation de Laval en conditions féminines et est diffusée dans le cadre du mois d'activité féministe de l'automne 2021. On milite pour une ville de Laval féministe et inclusive, une discussion à la fois. Bonjour et bienvenue à ce premier épisode du podcast À cœur d'elle. Moi, c'est Justine, puis aujourd'hui, on parle de féminisme 101 et d'ADS. Pour explorer ce sujet vraiment intéressant en profondeur, j'ai la chance d'avoir deux invités, Lamier et Sarah. Bonjour!
Salut, comment ça va? Bonjour.
Ça va bien, vous autres?
Ça va super bien, merci.
Ça va, merci.
Est-ce que vous avez envie de dire deux mots pour vous présenter?
Oui, bien sûr, je peux y aller. Lamiel Ketani, moi j'ai gradué en développement international, en sciences politiques puis en sociologie à l'Université McGill, puis en ce moment je suis un DESS en gestion du secteur privé et public. C'est un programme conjoint en tout cas entre le HEC et l'ENAP. Au niveau professionnel, je suis sur plusieurs projets en ce moment, je suis coordonnatrice pour la ville de Montréal. Je travaille également pour le Centre de développement pour l'exercice de la citoyenneté. Je soutiens le CFL, donc le Centre des femmes de Laval, sur divers mandats en lien avec la transformation sociale, et je fais partie de la cellule de travail ADS+ de la ville de Laval. Au niveau plus personnel, je me décrirais vraiment comme une féministe intersectionnelle passionnée. Je m'intéresse à la justice sociale, l'égalité et surtout la création d'un monde qui serait plus inclusif.
Merci et bienvenue. Et de ton côté, Sarah?
Oui, alors mon nom c'est Sarah Ouagani, donc je travaille à la TCLCF depuis janvier 2020. J'ai commencé en tant qu'agente de projet pour le dossier Femmes et Pouvoir, en fait, qui incite à avoir en fait plus de femmes dans les instances décisionnelles et en politique. Et présentement, je suis agente de projet ADS+. Sur mon background, donc j'ai un diplôme en sciences politiques de l'Université Concordia. Un peu plus sur moi, donc je suis impliquée dans plusieurs dans tout ce qui a trait à l'inclusion sociale, aux droits humains, puis je vous dirais que personnellement je fais une allergie sévère à l'injustice, donc ça c'est vraiment quelque chose qui me drive dans la vie.
Ben super, ben merci de votre présence, puis merci pour toutes ces belles informations. On voit pourquoi on vous a choisi, on est bien chanceuse. Donc, Lamie, est-ce que tu aimerais aussi nous expliquer, dans le fond, un peu plus la mission du Centre des femmes de Laval, puisque c'est aujourd'hui tu agis en tant que déléguée de...
Oui, bien sûr. Donc, le Centre des femmes de Laval, c'est un organisme communautaire qui est autonome. C'est un organisme de défense et de promotion des droits des femmes, tout ça dans une perspective de changement social. Donc, c'est un organisme aussi qui est géré par et pour les femmes. On travaille beaucoup avec deux approches au centre. Donc, l'éducation populaire autonome féministe. Donc, on favorise les apprentissages par le partage d'expériences et de savoirs. On accorde beaucoup d'importance à la réalité de chaque femme et à son vécu. On travaille aussi beaucoup avec l'approche féministe intersectionnelle, dont on va certainement parler dans quelques instants. Le Centre des femmes Laval, on offre plusieurs services, dont des groupes de discussion, de l'écoute individuelle, du référencement. Il y a aussi des activités de sensibilisation. Il y a aussi l'accès à des ordinateurs, un service d'impression et une friperie, et tout y est gratuit. Donc, c'est ça, vous pourrez, j'imagine, aller voir sur le lien ou
oui,
en commentaire.
Oui, le lien en commentaire, certainement, puis sinon, on peut vous trouver, j'imagine, sur Facebook et oui. Ben, Google aussi. Sarah, aussi, est-ce que tu as envie de dire un petit mot sur la TCLCF, évidemment,
ben oui.
Vu qu'on est collègues?
Oui, exactement. Ben oui, en fait, la table de concertation de Laval en conditions féminines, donc c'est un regroupement féministe régional, donc à Laval, qui travaille en fait de concret avec ses membres pour l'amélioration de la qualité de vie et de la condition de vie des femmes, donc tant sur les plans sociaux, le plan économique, politique et tout ça. Donc, la table veille vraiment à ce que les droits et les intérêts de toutes les femmes dans toute leur diversité, là, donc, et particulièrement des Lavalloises, évidemment, donc, soient respectées. Il y a plusieurs projets qui bouillonnent à la table, donc, on a des projets au niveau de la sécurité économique, donc, on a eu le projet Femmes et Pouvoir sur lequel j'ai eu la chance de travailler, donc, il y a un moment de projet de travail, là, qui se fait pour améliorer la condition de vie des femmes à Laval.
Excellent. Puis, pour rentrer dans le vif du sujet, en fait, soit la définition du féminisme, puis également la réalité des organismes qui travaillent dans le mouvement féministe, est-ce que une de vous sera à l'aise de m'expliquer qu'est-ce que le féminisme en 2021, puis en fait, quand on parle de féminisme, on s'adresse à qui?
Ok, c'est une belle question sur laquelle je pourrais y aller pendant des heures, mais en très compact. C'est un mouvement qui vise vraiment à atteindre l'égalité entre les femmes et les hommes, mais également entre les femmes elles-mêmes, puis ça, dans toutes les sphères inimaginables. Donc, tu sais, au niveau des droits, de l'accès aux services, à l'emploi, à la sécurité, donc, tu sais, vraiment tous les domaines. Pour ce faire, on vise à mettre fin au sexisme, à l'exploitation, mais aussi aux différents systèmes d'oppression qui contribuent au maintien de ces inégalités, donc, par exemple, le patriarcat, le colonialisme, ainsi de suite. Le féminisme, en 2021, c'est un féminisme qui essaye d'être plus inclusif, plus accessible, surtout, qui essaye de, justement, s'adresser à tout le monde, d'écouter tout le monde. C'est un mouvement où tout le monde devrait se sentir également concerné par les enjeux qu'il dénonce, donc les hommes y compris. C'est vraiment, c'est au niveau de la société, là, c'est pas deux, trois personnes qui devraient s'y intéresser. En 2021, tu sais, dans une perspective d'accessibilité, il y a ma collègue Graciela au Centre des femmes qui parle souvent du féminisme comme une spirale. Tu sais, elle dit, chaque personne peut se situer quelque part dans la spirale, on n'est pas obligé d'être tous activistes, militants, puis participer à toutes les manifestations qui se font. On peut y aller à notre rythme, tu sais, on peut s'instruire, s'intéresser à divers sujets, tu sais, essayer d'en apprendre davantage sur la réalité de chaque personne ou des femmes en général. Donc, tu sais, c'est vraiment ça dans quand on parle d'accessibilité, c'est que tout le monde devrait se sentir qu'il fait partie du mouvement puis trouver sa place.
Très bien dit, merci. Puis, en fait, ça m'amène à me poser la question, en fait, de comment on pourrait alors définir le féminisme intersectionnel dont t'as légèrement parlé tantôt.
OK. C'est ça. Donc, comme je vous ai dit, c'est dans l'idéal du féminisme 2021, l'ensemble des femmes, elles devraient se sentir incluses dans le mouvement. Mais ça a pendant longtemps pas été le cas. Et, tu sais, même aujourd'hui, c'est pas encore atteint nécessairement. Donc, tu sais, comment est-ce qu'on peut créer ce mouvement qui est inclusif et surtout qui est sensible à la diversité des parcours et des identités de toutes les femmes? C'est vraiment en adoptant une vision intersectionnelle. Donc, l'intersectionnalité, en résumé, c'est vraiment un concept qui sert à analyser comment les différents systèmes d'oppression, ils s'additionnent et se croisent mutuellement. Donc, tu sais, on parle de racisme, sexisme, capacitisme, agisme et tous les ismes. puis c'est ça. Donc, par exemple, si une seule et même personne, elle peut se trouver au croisement de plusieurs systèmes d'oppression et sans l'intersectionnalité, elle serait invisibilisée, sa réalité serait invisibilisée. Donc, par exemple, tu sais, c'est sûr qu'une femme blanche issue d'un milieu privilégié va pas avoir à faire face aux mêmes enjeux, aux mêmes difficultés qu'une femme noire de la communauté LGBTQ.
Très intéressant. Puis en fait, ce que j'aime avec le féminisme intersectionnel, c'est que ça permet de rendre compte qu'en fait, oui, on peut être oppressé par un système de pouvoir, mais on peut également être la cause d'oppression. Donc, c'est une dualité là, intéressante que je pense tout le monde a intérêt à garder en tête.
Exactement. Puis, historiquement, le terme a été utilisé la première fois par Kimberly Crenshaw à la fin des années 80. Madame Crenshaw, c'est une juriste et une professeure à UCLA. Elle analysait le cas d'Emma, donc c'est une femme afro-américaine qui poursuivait GM pour discrimination de la compagnie de voitures. Puis elle a perdu parce que ce que GM a dit pour se défendre, c'est que, ben, écoute, ils étaient pas sexistes parce qu'il y avait des employés qui étaient des femmes, puis ils étaient pas racistes parce qu'ils avaient des employés qui étaient noirs. Fait qu'elle, ce qui est arrivé, c'est que justement, elle se retrouvait au croisement de deux systèmes d'oppression, donc le racisme et le sexisme, et son cas a été invisibilisé. Est tombé un peu dans l'angle mort, tu sais.
En fait, je pense que c'est aussi important d'ajouter que oui, le terme intersectionnalité est apparu pour la première fois en fait dans la question mainstream un peu si on veut en 1989 par en fait une universitaire donc noire américaine. Oui, mais une universitaire donc une juriste privilégiée donc Kimberly Crenshaw. Mais c'est important de se rappeler que le concept existait bien avant donc dans les années 40, 50, 60 et même 70. Ce terme-là d'intersectionnalité a été introduit dans le mouvement féministe afro-américain, mais on l'entendait moins souvent parce que, bon, c'était des militantes, des femmes afro-américaines de la classe ouvrière, donc on en entendait moins parler et leur voix a été moins entendue, là, jusqu'à ce qu'une universitaire, en fait, en parle. Donc, c'est là aussi, en fait, avoir un peu le paradoxe avec le privilège, donc le terme existait bien avant, mais on veut vraiment donner ce terme-là à une juriste, à une universitaire qui a sorti ce terme-là, qui a donné un terme, en fait, dans le milieu universitaire. Donc ça, je pense que c'est important, en fait, de se rappeler que l'histoire du féminisme intersectionnel n'a pas seulement commencé en 1989 avec Kimberlé Crenshaw, mais bien avant, dans les mouvements de militantisme là, afro-américain.
Ouais, totalement.
Totalement. Les origines militantes du mouvement, puis on le ressent encore, mais t'as raison de souligner que ça prend comme une crédibilité, sinon on le tient pas en compte.
Mais c'est ça, donc elles ont été invisibilisées, veut pas, parce que voilà, leur classe sociale, donc elles venaient d'une classe ouvrière, c'était des militants, donc elles avaient pas nécessairement en fait une tribune qui leur permettait de parler de ça, mais pendant ce temps-là, pendant plusieurs décennies, elles vivaient ça, puis elles continuent encore à vivre ça.
Ouais.
Puis est-ce que vous diriez que le féminisme intersectionnel est bien intégré dans le mouvement féministe, ben, lavallois, mais également plus largement le mouvement féministe québécois?
Alors, en fait, ben oui, non. Donc, on va se rappeler que le terme tel qu'on le connaît, donc, existe depuis 1989, c'est assez récent, donc assez jeune. Je dirais donc que ça soit plus connu à travers tout le monde, là, mais pas seulement dans les milieux de militantisme, en fait, noir américain. Donc, en fait, je dirais qu'en théorie, donc il y a une bonne volonté des groupes à vouloir intégrer cette notion-là et ce concept. Puis heureusement, je vous dirais, là, c'est important, en fait, qu'il y ait cette volonté-là. Mais en fait, en pratique, ça peut être un peu plus difficile à certains moments. On peut donner comme par exemple en fait au niveau de certaines embauches dans certains groupes de femmes où on voit que c'est assez peu édulcoré, donc c'est encore à majorité en fait des femmes blanches donc qui sont dans les groupes de femmes. Il y a quand même en fait une volonté de vouloir en fait avoir plus de diversité, mais c'est une progression que je vous dirais qui est un peu lente. La progression est là, mais elle est un peu lente. Donc il y a encore beaucoup de travail à faire, donc beaucoup de d'écoute à faire, beaucoup d'empathie à avoir en fait pour briser en fait les que ce soit les préjugés, les biais inconscients qu'ils peuvent avoir et aussi en fait il y a quand même une résistance au changement, donc c'est difficile en fait de quand on a vraiment une façon de procéder que ça a toujours été comme ça, c'est un peu difficile de venir changer ça. Donc mais c'est ça, donc la progression est quand même lente, mais bon, elle est là, mais ça prend un peu plus de temps là, avant que ça soit complètement là, que ça fasse complètement partie prenante en fait du
processus, ouais. Que ce soit comme bien intégré aux pratiques des organismes qui œuvrent dans le mouvement des femmes. Mais en fait, je pense que tout le monde s'entend que l'inclusivité, c'est important, puis que en fait, ça doit être considéré comme un enjeu féministe. Mais est-ce qu'il y a des bonnes pratiques, justement, adoptées pour intégrer cette analyse-là intersectionnelle dans les organismes, à votre avis?
Moi, je pense que oui, il y en a plusieurs. Tu sais, il faut se sensibiliser, s'éduquer sur la réalité des autres. Pour ce faire, il faut savoir écouter ce que les femmes, elles ont à dire, mais aussi, tout simplement, leur donner l'espace pour le faire. Il faut faire preuve d'empathie, d'ouverture d'esprit. Il faut aussi être prêt à déconstruire ses préjugés, mais premièrement, il faut reconnaître qu'on a des préjugés, reconnaître qu'on a des biais inconscients. Puis il faut aussi dénoncer les situations qu'on voit qui sont, tu sais, qui reproduisent des systèmes d'inégalité. Je pense que l'intersectionnalité, c'est vraiment important parce que, tu sais, ça permet d'analyser la société. Donc, de la comprendre c'est quoi les problématiques, mais aussi d'intervenir, donc lutter pour répondre à ces problématiques. Puis en nommant les problèmes, on peut trouver des solutions, tu sais. Mais il faut être capable de nommer ces problèmes-là.
Mm-hmm.
Puis pour le faire, mais il faut s'ouvrir un peu l'esprit puis regarder ce qui se passe.
Ben, je trouve ça intéressant ce que tu dis parce que, disons que je parle de ma perspective en tant que femme blanche, j'ai une myriade de privilèges, mais la seule chose concrète que je peux faire, c'est bien de les reconnaître, puis travailler à les déconstruire, puis en fait, personnellement, j'ai l'impression que c'est quand même ma responsabilité, donc c'est ça, on invite tout le monde à déconstruire leurs privilèges.
C'est ça, on en a tous des biens conscients, mm-hmm. C'est ça, c'est le résultat d'avoir grandi dans une société qui est la nôtre, c'est vraiment de les reconnaître, puis d'essayer de les identifier, puis justement, là, travailler là-dessus.
Et c'est important de se rappeler aussi qu'en fait, c'est pas une accusation en soi, c'est vraiment mm-hmm. juste de prendre le temps de s'asseoir et de voir que oui, on a tous et toutes des privilèges, puis qu'il faut en fait savoir
les reconnaître peut-être.
Les reconnaître, exactement. Mm-hmm. Sans pour autant, les reconnaître n'égale pas en fait les perdre. Donc c'est ça qu'il faut en fait qu'il faut garder en tête. Donc on a tous des privilèges et puis on va pas les perdre si on les reconnaît. Donc au contraire, donc ça nous permet en fait de nous d'aider d'autres personnes qui ont moins de privilèges et de ne pas les perdre. Donc c'est ça qu'il faut toujours garder en tête.
Mm-hmm. Ouais. Oui, ben c'est vraiment intéressant puis c'est important puis deux choses que vous avez dit que je souligne là, écouter puis s'éduquer, c'est pas mal une bonne façon de commencer, surtout si c'est fait avec sincérité. Mm-hmm. Donc parlant de bonnes pratiques, en fait, ça m'amène à parler du deuxième volet là, qu'on souhaitait aborder aujourd'hui, c'est-à-dire l'ADS+, peut-être une créature un peu plus méconnue du grand public. Donc qu'est-ce que ça permet, l'ADS+, et qu'est-ce que c'est?
Oui, ben en fait, donc l'ADS+, donc qu'est-ce que c'est? Premièrement, en fait, qu'est-ce que l'acronyme veut dire? Donc, c'est l'analyse différenciée selon les sexes. Donc, grosso modo, c'est vraiment, donc les institutions prennent en compte, donc font une analyse qui est poussée, en fait, ils font une analyse et prennent en compte, en fait, les différents types d'oppression qui peuvent être vécues par les femmes. Et en fait, tente de regarder c'est quoi ces différentes oppressions là et de les considérer en fait dans leur prise de décision. Donc si jamais il y a une décision à prendre en lien avec un aménagement urbain, donc on va regarder à travers la lunette d'ADS+, donc voir qu'est-ce qu'on va faire qui va faire en sorte que ce nouvel aménagement là va faciliter la vie des femmes. Donc il y a plusieurs exemples qu'on connaît déjà en fait au Québec.
Donc oui, comme quoi par exemple, ça m'intrigue.
Oui, donc par exemple la ville de Montréal, ce qu'ils ont fait c'est qu'ils permettent aux femmes de demander d'arrêter, demander d'arrêter en deux arrêts. Donc, tu as le droit de demander le soir à partir d'une certaine heure au chauffeur de t'arrêter entre deux arrêts. Ça a été initialement pour des raisons de sécurité. Mais ce qui est important aussi de souligner par rapport à l'ADS+, c'est que le plus signifie l'intersectionnalité. Donc, par exemple, quand on fait justement des analyses comme ça avant de mettre en place un projet ou une politique ou quoi que ce soit, il y a plusieurs personnes qui sont invisibilisées, qui en profitent. Donc, par exemple, là, pour demander d'être déposé en deux arrêts, pardon. Mais il y avait aussi les personnes âgées qui en ont bénéficié, mm-hmm. Les personnes issues de la communauté LGBTQ, mais qui des fois, tu sais, marchaient seules le soir. Mais malheureusement, ça reste encore dangereux. Donc, c'est ça, tu sais, il y a plusieurs groupes, plusieurs personnes qui sont invisibilisées, qui en profitent. Donc, c'est vraiment une bonne pratique, l'ADS+. Puis justement, tu sais, si on cherche un outil pour être intersectionnel ou, tu sais, mettre en place des projets intersectionnels, l'ADS+, c'est un très bon commencement.
Excellent. Merci pour cette explication-là. C'est très clair et très intéressant. En changeant de sujet un petit peu, j'ai envie de vous demander, en fait, quels sont les défis auxquels font face les organismes qui œuvrent actuellement dans le mouvement des femmes à tous les niveaux, donc peut-être par rapport à l'intégration de ces outils-là, mais également les défis en général.
Je veux dire, parfait. Premièrement, le gros défi, c'est vraiment le sous-financement. Ça a plusieurs impacts à plusieurs niveaux, mais majoritairement, nous, ce qu'on dénote, c'est une difficulté au niveau de la rétention du personnel. C'est difficile d'offrir un bon salaire ou des contrats qui sont assez longs. Oui, assez intéressant pour retenir le personnel. Donc, ça cause un épuisement au niveau de l'équipe de travail, tu sais, qui est fixe, et aussi un affaiblissement des équipes. La pandémie, elle a eu beaucoup d'impact aussi parce qu'il y a une augmentation de la demande. Nous, on est plus sur le terrain, là, au Centre des femmes de Laval, donc on offre des services directement à la population. Donc, cette augmentation de la demande, avec une baisse de ressources, c'est difficile, tu sais. On n'a pas où référer les femmes nécessairement. Puis ça, ce que ça cause chez les travailleuses, c'est vraiment une fatigue de la compassion. C'est un sentiment perpétuel d'impuissance. T'sais. On sait qu'une femme qui va venir nous raconter un problème, des fois, ben il y a aucune ressource qui pourra l'aider concrètement. Donc ça, veut pas, ça cause une certaine détresse chez les travailleuses. Par exemple, à Laval, il y a pas eu de maison d'hébergement pour les femmes. Puis maintenant, c'est
En route,
là, mais quand même, tu sais, pendant la pandémie, il y en avait des femmes qui étaient dans des situations compliquées. Où est-ce qu'on les réfère, ces femmes-là, tu sais?
Mm-hmm.
Donc, c'est ça.
Donc, un point qu'on ne dira jamais assez, je crois. On veut du financement. Puis, Sarah, est-ce que tu avais envie d'ajouter quelque chose?
Oui, donc, en fait, il y aurait aussi un autre défi en lien avec l'intersectionnalité. Donc, c'est vraiment le défi de concertation, en gros. Donc, de pouvoir, en fait, avoir toutes les membres, tous les organismes qui sont, en fait, d'accord sur ce point-là. Ce sont des enjeux qui sont émotifs. C'est difficile d'avoir, justement, tout le monde d'accord sur ce point-là. Donc, c'est quand même un peu... l'intersectionnalité veut pas, donc il y a quand même une volonté de vouloir l'appliquer, mais comme je disais un peu plus tôt, donc dans les faits, c'est un peu plus difficile parce qu'il y a une résistance au changement et tout ça, donc ça, ce terme-là revient un peu comme étant un peu l'éléphant dans la pièce, alors que ça devrait pas l'être, donc ça devrait pas être émotif, ça devrait pas être l'éléphant dans la pièce, on devrait pas en fait toujours remettre à plus tard cette question-là, donc c'est une question qui est importante, ce sont des vies de femmes qui sont impactées par ces questions-là. Et pendant ce temps-là, pendant qu'on remet toujours à plus tard par peur, en fait, par peur un peu de...
Brasser la cage.
Exactement, par peur de brasser la cage, mais les femmes continuent de subir ces oppressions-là multiples, continuent, en fait, de vivre ces traumatismes-là. Donc, est-ce que... On a le concept, on a la volonté, est-ce qu'on peut en fait se concerter sur ce sujet-là et en fait être d'accord sur le fait que c'est important, parce que ça c'est, on peut pas attendre, je pense qu'on peut pas se permettre d'attendre encore plus longtemps, surtout qu'il y a des vies humaines là qui sont impactées par ça, donc je pense que justement ça revient en fait à regarder en fait nos privilèges et à vraiment les utiliser à bon escient pour éviter là que on remette toujours cette question là à plus tard.
Exact. Fait qu'un défi ce serait en fait de prendre action maintenant.
Exactement. Mm-hmm. Puis pas toujours remettre à plus tard parce que on veut pas que ce soit un débat émotif et tout ça, mais ça vient vraiment mettre de côté en fait toute la souffrance et toutes les oppressions que les femmes à l'intersection des oppressions vivent à tous les jours. Par exemple, donc c'est dans des choses aussi simples que d'aller en fait appliquer pour un loyer, appliquer pour un emploi. Donc ça c'est vraiment difficile pour les femmes qui vivent des oppressions multiples, et le fait qu'on ne les écoute pas, qu'on leur donne pas en fait qu'on leur donne pas le support qu'elles ont tant besoin, c'est pas quelque chose là, ça réglera pas la question là demain. Donc je pense que c'est important en tant que féministe, en tant que regroupement, de travailler sur la question.
Mm-hmm. Puis d'avoir les conversations difficiles s'il y a lieu, puis ensuite aller de l'avant.
Exactement.
Donc, merci pour toutes vos pensées. Là. C'est tellement intéressant et riche. Donc, en guise de conclusion, en fait, j'ai envie de vous demander qu'est-ce que vous souhaitez pour la suite des choses, mm-hmm. dans le mouvement féministe et peut-être en général?
On souhaite plusieurs choses, mais vraiment, tu sais, ce serait plus de financement, tu sais, l'idée, ce serait une relance féministe, une relance économique féministe qui serait développée avec la DS+. Puis, tu sais, on aimerait qu'on cesse d'invisibiliser les femmes puis les enjeux qu'elles traversent, qu'on cesse d'invisibiliser le travail des femmes qui ont tenu le système à bout de bras pendant la pandémie, que les organismes communautaires, justement, spécialement les centres des femmes, soient financés à leur mission. On aimerait aussi que les personnes marginalisées, qui sont elles aussi invisibilisées, elles soient invitées aux tables où les décisions sont prises pour qu'elles puissent partager leur réalité, mais aussi directement donner leurs recommandations, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elles, elles ont besoin. Elles ont une voix, c'est justement d'amplifier leur voix, de leur donner l'espace pour qu'elles demandent ce dont elles ont besoin. On aimerait aussi, surtout, que les gouvernements, les différents paliers de gouvernement passent à l'action. L'idéal, ce serait que tout le monde développe un peu un réflexe ADS+. Puis surtout, tu sais, qu'est-ce qu'on veut, c'est qu'on écoute les femmes.
Ah oui. Écoutons les femmes.
Absolument. Puis c'est ça, donc je pense que l'écoute est très, très importante, et les croire surtout, en fait, mm-hmm. Croire leurs différents parcours de vie, avoir de l'empathie. Et je pense aussi, en fait, que justement, donc, la pandémie nous a permis de voir plusieurs choses, en fait, justement, que les femmes qui vivent, en fait, au niveau de qui vivent des oppressions. Donc, je parle notamment, en fait, des femmes racisées qui ont vraiment aussi tenu, en fait, le système de santé à bout de bras. Donc, on peut penser aux préposés aux bénéficiaires, aux infirmières et tout ça. Donc, qui ont été en mode survie pendant la pandémie. Et en fait, nous aussi, on a un peu vécu ce mode-là survie. On a eu des libertés, en fait, qu'on n'avait plus. Donc, les confinements, les couvre-feux et tout ça. Donc, ça a été lourd. Et je pense que ça nous permet de voir que ces femmes-là qui ont tenu notre système de santé à bout de bras, ben, c'est leur quotidien. Tout le temps, c'est pas juste en fait une pandémie d'un an et demi ou de deux ans, donc ça a toujours été comme ça, donc j'espère que d'avoir vécu ça nous permet en fait d'être plus empathiques envers les personnes qui sont tout le temps en survie, en mode survie, donc je pense que j'espère que c'est un mal pour un bien là au niveau de la pandémie, mm-hmm. Ça va nous permettre en fait d'ouvrir nos horizons et de comprendre que il y a des gens qui ont toujours vécu comme ça, puis de reconnaître en fait leur les souffrances qu'elles ont eues.
Merci beaucoup pour ces belles paroles, puis en fait c'est vraiment important là comme message de souligner l'écoute et l'empathie et aussi le financement. Donc merci les filles de vous être déplacées, merci pour la belle conversation. C'est comme ça que se clôt notre premier épisode, et puis à la prochaine.
Merci.
Vous venez d'écouter le podcast À cœur d'elle, à l'animation Justine Bouvier, à la composition musicale Marika Galea, au graphisme Véronique Lee, enregistré au studio Espace Numérique avec le soutien financier de la Ville de Laval et du secrétariat à la condition féminine dans le cadre de l'entente régionale en égalité.